soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Comme chaque soir, on commence par le tour de l'actualité de la journée. Bonsoir Amélie Perrier.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel de ce jeudi commence avec une arrestation spectaculaire, Amélie.
Personne n'est au-dessus des lois, dit Theresa May. Elle ne parle pas du Brexit ici, mais de l'arrestation à Londres de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, jugé devant un tribunal dans la foulée. Coupable, il risque la détention et pire, l'extradition vers les États-Unis qu'il réclame depuis des années pour avoir publié des millions de documents classés secret défense. Pardonnez-moi. Un coup d'état militaire au Soudan. Après des semaines de manifestations, les opposants au président Omar el-Béchir ont convaincu l'armée de démettre le chef de l'État. Quel statut pour les livreurs à vélo ou les chauffeurs VTC, selon une étude de l'Institut Montaigne. Ils veulent garder leur liberté, mais une meilleure protection aussi. 4 millions d'enfants asthmatiques supplémentaires chaque année sur la planète à cause de la pollution du trafic routier. Et quasiment tous vivent dans des zones où les normes d'émissions polluantes sont respectées. Des normes à durcir, disent les chercheurs.
Voilà, quelques adultes aussi peut-être. 18h15, un jour dans le monde. Nous aussi, on parle de Julian Assange. Et on reviendra sur l'homme. Qui est-il? L'homme de Wikileaks, l'homme vu comme un héros par certains, avec une image peut-être qui a pu flancher avec le temps. On verra ça ensemble. Nous sommes aussi au Rwanda, voir comment ce pays est devenu la locomotive de l'Afrique pour ce qui est de l'économie numérique. Et puis 19h20, le téléphone sonne. Il semble que vous ayez déjà trouvé le chemin du standard. Ce soir, vous avez envie de poser des questions à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Et bien c'est maintenant le projet de loi École de la confiance, la réforme des lycées, les effectifs, la rentrée, les écoles, les collèges. Allez-y, 01 45 24 7000.
France Inter.
Il a donc passé 2487 jours enfermé dans l'ambassade équatorienne à Londres.
Près de 7 ans à l'abri, pensait-il, des mandats d'arrêt internationaux émis contre lui. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, a été sorti du bâtiment ce matin contre son gré par la police britannique. Vieilli, barbe blanche et visage bouffi, méconnaissable. Londres, où l'on rejoint notre correspondant Antoine Gignot. Bonsoir.
Bonsoir.
Près de 7 ans à l'abri et l'histoire s'accélère. En quelques heures, Assange a été arrêté, jugé devant un tribunal londonien et condamné, reconnu coupable d'avoir violé les conditions de sa libération provisoire, Antoine ?
Absolument, arrêté, condamné, le tout en moins de 6 heures. Pour les juges britanniques, aucun doute, Julian Assange est coupable parce qu'il a refusé en 2012 de répondre à une convocation liée à une affaire d'agression sexuelle en Suède. Il est resté enfermé, claquemuré à l'intérieur de l'ambassade d'Équateur. Il a donc, aux yeux de la justice, violé les conditions de sa liberté sous caution. Reste à connaître la sentence, elle sera annoncée plus tard, mais il risque un an de prison. Le fondateur de Wikileaks va de toute façon rester en détention jusqu'à la prochaine audience, prévue le 2 mai, audience consacrée cette fois à la plainte du gouvernement des États-Unis. Le ministère de la Justice américain l'accuse d'avoir conspiré contre le gouvernement en aidant Chelsea Manning, un ancien analyste des services de renseignement, à déchiffrer un mot de passe pour prendre le contrôle d'un ordinateur classé secret défense.
Merci beaucoup Antoine Gignot en direct de Londres. Julian Assange, héros de la transparence pour certains, bête noire pour d'autres. Avec son site Wikileaks, l'Australien avait donc révélé ses crimes de l'armée américaine en Irak. Le ministère de la Justice américaine vient de publier son acte d'inculpation pour piratage informatique. Il tombe aujourd'hui à la faveur d'une alternance en Équateur, de gauche à droite. Au-delà, Thibaut Cabellier, vous nous avez rejoint. Le cas Assange est un sujet diplomatique, l'objet d'une confrontation entre les grandes puissances.
Oui, et principalement entre les États-Unis et la Russie, Amélie, depuis 2010. Et ces milliers de documents militaires américains secrets diffusés. Puis en 2016, l'affaire des mails d'Hillary Clinton piratée. Assange est alors soupçonné de collusion avec la Russie. Son nom est cité par le FBI, d'autant plus que quelques années auparavant, il travaillait pour la chaîne pro-russe Russia Today en y menant des interviews de personnalités. Assange et la Russie, c'est aussi cet autre lanceur d'alerte, Edward Snowden, que l'Australien aurait aidé à se réfugier, ou donc à Moscou. Moscou, dont la réaction après l'arrestation du hacker aujourd'hui, prouve qu'elle devient son premier soutien. La main de la démocratie étrangle la liberté, dit la porte-parole de la diplomatie russe. Assange savait qu'il ne pouvait plus compter donc sur l'Équateur, présidé depuis 2007 par le libéral Lénine Moreno, qui a choisi de s'aligner sur les États-Unis, premier client de l'Équateur. Assange est un caillou dans le soulier de la diplomatie équatorienne, affirmait Moreno, qui est le plus grand traître de l'histoire de l'Équateur et de l'Amérique latine aux yeux de l'ancien président et soutien de Assange, Raphaël Correa.
Thibaut Cavaillès, merci à vous.
Et on en reparle dans Un jour dans le monde tout à l'heure de Julian Assange. L'autre titre du soir, Amélie, est toujours à l'étranger, c'est la fin d'un des plus vieux régimes d'Afrique.
Au Soudan, le président Omar el-Béchir vient d'être renversé par l'armée. 30 ans de règne sans partage. Il n'aura pas résisté à la colère de son peuple dans la rue depuis l'augmentation du prix du pain en décembre dernier. Voilà, vous les entendez derrière moi ces derniers jours, les manifestants réclamaient le soutien des militaires. Nathanaël Charbonnier, bonsoir.
Bonsoir.
Racontez-nous, l'armée s'est effectivement rangée du côté des protestataires et prend le pouvoir ce soir, Nathanaël.
Oui, Omar El-Béchir n'est plus président du Soudan. Le ministre de la Défense qui fait l'annonce à la télévision précise alors que l'ancien homme fort du pays est en détention et en lieu sûr. L'armée prend le pouvoir et va le garder pendant 2 ans, un intérim assez long qui sera réalisé par un conseil militaire dit de transition. Mais ce n'est pas tout. Ordre a été donné de fermer les frontières et l'espace aérien jusqu'à nouvel ordre. Un cessez-le-feu a été décrété sur l'ensemble du territoire ainsi qu'un couvre-feu. On peut ajouter l'arrestation de différents chefs des frères musulmans. Dans la rue, on n'a pas attendu l'annonce du départ d'Omar El-Béchir pour faire la fête. Ce sont donc des milliers de manifestants, on les entend, qui ont défilé dans la rue en criant notamment leur joie et en scandant « Il est tombé, nous avons gagné ». La rue qui obtient un gain de cause après 4 mois de manifestations, de détermination et malgré la répression, on parle de près de 50 morts depuis le mois de décembre. La rue, justement, que va-t-elle faire de cette victoire? Va-t-elle, comme en Algérie, vouloir aller plus loin? Il semble que cela soit le cas puisque les meneurs de la contestation rejettent déjà ce coup d'État et appellent le peuple à continuer quoi? Eh bien la révolution.
Merci beaucoup, Nathanaël Charbonnier. Les États-Unis et l'Europe demandent une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. La Libye est retombée dans la guerre depuis l'offensive lancée par le maréchal Haftar, maître de l'Est du pays, pour prendre la capitale, Tripoli. Les combats ont fait au moins 56 morts et plus de 260 blessés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les hôpitaux sont débordés. Une élection à 900 millions de votants. Les Indiens vont choisir à partir d'aujourd'hui leur prochain gouvernement. Le processus va durer 6 semaines. Et déterminer l'avenir de la démocratie la plus peuplée du globe. Le sortant, le premier ministre Narendra Modi de la droite nationaliste, affronte notamment Rahul Gandhi, le président du Congrès.
Il est 18h07 sur France Inter, Amélie. Elle fait son retour dans les médias en France, Marion Maréchal.
Et l'ancienne députée du Rassemblement national rejette le positionnement populiste dans un entretien donné à Valeurs Actuelles. Si la nièce de Marine Le Pen n'a plus aucun mandat, sa voix pèse encore dans le débat politique, tant elle est vue comme l'avenir de la droite nationaliste. En France, Maxence Lambrecq, vous avez lu cette interview. Alors, à l'approche des élections européennes, elle signe une nouvelle carte postale comme un petit mot à sa tante et elle rejette le clivage populiste, progressiste.
Oui, ce clivage me semble être une impasse électorale, dit-elle. Au moins, c'est clair à ses yeux, le RN fait fausse route en jouant sur cette dichotomie. Il s'enferme dans une impasse. Petit cadeau de campagne, je crois qu'on ne peut pas gagner en s'adressant seulement aux classes populaires. Et elle ajoute, pour enfoncer le clou, le clivage droite-gauche continue d'irriguer la vie politique française. Et elle met en valeur le conservatisme, comme une réplique à sa tante, qui dans ce même journal cet hiver avait déclaré « Le conservatisme va à l'encontre de la méritocratie ». Une sorte de ping-pong à distance, mais à quoi bon, que cherche-t-elle? D'abord, de l'argent. Cette interview, c'est une manière de faire de la pub pour son école lyonnaise, toujours en quête de financement et d'élèves. Ensuite, c'est une manière de préparer le terrain. Elle-même ne sait pas précisément où elle va, à quel tempo, vers quel combat, mais elle occupe le terrain et ses proches l'encouragent dans ce sens. Elle entretient la flamme en cognant contre Emmanuel Macron tout au long de ses 10 pages. Produit dépassé de l'énarchie des années 2000, la politique Hollywood chewing-gum n'est pas suffisante, il ne comprend rien à l'âme des peuples. Enfin, Marion Maréchal cherche aussi à prendre peu à peu ses distances avec le RN en allant sur le terrain philosophique. Elle hésiterait, selon un de ses proches, a voté pour un jeune conservateur catholique aux élections européennes. Son nom, François-Xavier Bellamy.
Merci beaucoup Maxence Lambrecq. Le gouvernement, lui, a fait passer sa loi Pacte avec à l'intérieur le projet de privatisation d'ADP. Le Parlement l'a définitivement adopté ce matin. Petite ironie de l'histoire, Jean-Luc Mélenchon, fervent opposant, a voté pour une erreur technique, dit son entourage. En tout cas, la privatisation d'Aéroports de Paris fait l'objet d'une menace de blocage avec le référendum d'initiative partagée. On vous en parlait hier, voté par 248 parlementaires de gauche et de droite. Le RIP doit encore être validé par le Conseil constitutionnel et voté par plus de 4,5 millions de citoyens pour passer. La liberté, oui, la protection aussi. C'est le titre d'un rapport publié aujourd'hui sur les travailleurs des plateformes. Vous savez, ces livreurs à vélo, ces chauffeurs de VTC, ces designers freelance qui offrent leurs services via des applis. Ces indépendants, ils sont 200 000 en France, finalement très liés aux plateformes comme Uber ou Deliveroo. L'Institut Montaigne propose aujourd'hui des pistes pour clarifier leur statut. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Des pistes élaborées après une enquête menée auprès de 800 de ces travailleurs.
Et premier constat de l'Institut Montaigne, ces travailleurs indépendants qui travaillent donc sur ces plateformes ne veulent pas être requalifiés en salariés. Ils sont jeunes, 26 ans d'âge en moyenne, et les CDI et les CDD proposés aujourd'hui sur le marché du travail, ne les font plus rêver, explique Bertrand Martineau, co-auteur de l'étude.
ce qui ressort de cette étude, c'est que ce sont des personnes qui, très majoritairement, ont des besoins de liberté, ne se retrouvent pas dans une entreprise avec des heures fixes, avec un manager en permanence, qui veulent avoir, par exemple, des plages de liberté en cours de journée, qui veulent travailler soit le soir, soit le matin. Ils ne se sentent pas comme des salariés.
Imposer une requalification CDI pour tous ces indépendants serait donc un contresens. Deuxième constat, inattendu, ils cotisent autant et parfois plus à la sécurité sociale qu'un salarié au SMIC et lui salarié sans avoir les mêmes droits. L'Institut Montaigne propose donc la création d'un régime de protection sociale, une mutuelle d'entreprise en quelque sorte, mais sans entreprise et sans employeur, ainsi qu'une protection équivalente pour l'assurance chômage. Nouvelle taxe donc payée par ces plateformes. Ces travailleurs indépendants pourraient très bien aussi être affiliés à des regroupements d'indépendants, portés cette fois par de grands acteurs de l'assurance.
Laurent Kramer, troisième victoire devant la justice pour un agriculteur lancé dans une bataille sans fin contre le géant Monsanto. Paul François obtient gain de cause devant la cour d'appel de Lyon. Monsanto et son herbicide, le Lasso, ont été reconnus responsables des problèmes de santé de l'agriculteur. La cour reproche au groupe de ne pas avoir indiqué tous les dangers sur l'emballage des produits. Le Lasso a été interdit en France en 2007. La pollution de l'air, cette fois liée au trafic routier, est responsable chaque année de 4 millions de nouveaux cas d'asthme chez les enfants partout dans le monde. Un chiffre avancé dans une étude publiée aujourd'hui dans une revue spécialisée. 4 millions de petits asthmatiques, dont 90% vivent dans des zones où l'on respecte les normes de l'Organisation mondiale de la santé. D'où la nécessité, nous dit le médecin et expert en pollution Gilles Dixot, la nécessité de revoir ces normes.
Les valeurs limites qui ont été fixées aussi bien par l'OMS, par l'Europe ou par d'autres instances sont, je dirais, des valeurs fixées un peu à la louche. C'est-à-dire qu'on a fixé au niveau de l'OMS des valeurs qui sont 2,5 fois plus sévères que les valeurs fixées au niveau européen. Mais même les valeurs de l'OMS, on ne peut pas dire qu'elles nous protègent contre les effets de la pollution atmosphérique. Il y a deux choses qu'il faut envisager. C'est d'une part baisser les valeurs limites fixées par l'OMS. Et deuxièmement, il faudrait prendre en compte en Europe les particules ultra fines. Par exemple, on sait que ce qui sort actuellement d'un moteur diesel, ce sont des particules de 0,1 micron. Or, les particules qu'on prend en compte dans la réglementation sont des PM10, c'est-à-dire des particules 100 fois plus grosses. Donc il y a un grand écart entre la pollution réelle et la réglementation qui date d'il y a 50 ans.
Le docteur Gilles Dixot, expert en pollution, il était joint par Véronique Julia. Un bébé conçu avec 3 parents. La technique avait été dévoilée il y a quelques années par les chercheurs. Elle vient d'être testée et réussie en Grèce. Un petit garçon est né avec l'ADN de 3 personnes. Celui de sa maman, qui avait tenté en vain plusieurs fécondations in vitro. Cet ADN a été transféré en fait dans l'ovule d'une donneuse dont le matériel génétique avait été supprimé. Il a été ensuite fécondé par le sperme du père in vitro et l'embryon implanté dans l'utérus de la mère. J'espère que vous m'avez suivi. Quant à la Corée du Sud, elle vient de lever l'interdiction de l'avortement, décision historique. Jusque-là, les femmes risquaient 1 an de prison et une amende. Les médecins encouraient 2 ans de prison. La légalisation de l'IVG a été saluée par les associations militantes.
Merci beaucoup, Amélie Perrier. À tout de suite, Amélie, dans Un jour dans le monde.
Sous les radars ce soir, on vole, on roule, on voyage avec de gros doutes d'abord sur le F-35 américain, le fleuron du Pentagone. Un avion de chasse vient de se crasher. Et puis en Autriche, on met à l'arrêt tous les bus dans une ville à cause de la rougeole. Enfin, au Pays Bas, on offre des voyages en train gratuits à tous les amoureux des livres.
Et on verra ça ensemble, il sera autour de 18h37. Amélie, à tout à l'heure. Ce soir, on vous raconte l'histoire de Julian Assange, icône pour certains, mais pas pour tous, et comment cet homme a évolué aussi au fil de ses jours, ses mois, ses années passées à l'ambassade d'Équateur. Nous sommes au Rwanda pour parler numérique, et puis le téléphone sonne, il y a déjà tellement d'appels au standard que je suis pas sûre de vous rappeler le numéro, mais enfin si, quand même, 01 45 24 7000. C'est Jean-Michel Blanquer qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le ministre de l'Éducation nationale, l'école de la confiance, la réforme des lycées. Le ministre est là pour tout entendre. Profitez-en.
La météo avec Gautier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
Sébastien Léas, une journée ensoleillée, mais encore des averses au programme de demain dans le sud-est.
Oui, demain, le soleil va prendre encore plus de place pour s'imposer sur la majeure partie du pays. Au sud de la Garonne et sur les Pyrénées, la matinée sera quand même plus mitigée à cause de grisailles, donnant même quelques gouttes. Mais les éclaircies seront belles l'après-midi. lundi. Au nord de la Seine et sur le Grand Est, après une matinée sous le soleil, le ciel va progressivement devenir plus variable avec l'arrivée de nuages plus nombreux l'après-midi. Et puis entre les Alpes du Sud, la Côte d'Azur et la Corse, l'instabilité va reprendre, les averses devenant de plus en plus nombreuses au fil des heures. Quelques coups de tonnerre pourront déjà retentir en matinée, mais c'est l'après-midi que le risque orageux sera le plus fort, avec même de la grêle encore possible sur la Corse.
Et puis une nouvelle baisse des températures minimales.
Oui, entre cette nuit et demain matin, la moitié nord et le centre-est auront des températures parfois froides avec des gelées plus fréquentes. On aura par exemple 0 degré à Brest, Orléans et Nancy, moins 2 degrés à Nevers et Mulhouse. Demain après-midi, il fera 10 à 15 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 20 degrés sur le sud. Prévoyez par exemple 12 degrés à Reims, Rouen et Célestat, 13 degrés à Paris, 14 à Besançon et Rennes, 15 degrés pour Lyon et La Rochelle et jusqu'à 19 degrés du côté de Nîmes. Et puis le Mistral et la Tramontane resteront sensibles et les côtes de la Manche auront aussi un peu de vent.
Sébastien Léas de Météo France. Merci Sébastien. À tout à l'heure après 19h.